Vous écoutez RTL.
RTL, on refait la télé, Jade et Éric Dussard.
C'est beau. Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour refaire la télé de la semaine sur RTL. Bonjour Éric.
Bonjour Jade et bonjour cher public. Mais vous avez vu cette ambiance, ce public, c'est incroyable. On se croirait à un concert de Johnny Hallyday et ça tombe bien car notre invité du jour a justement chanté du Johnny à la télé. Oui, c'était dans une émission qui s'appelait Le Grand Show. D'ailleurs, c'est aussi son surnom, Le Grand Show, maintenant, car ce soir-là, il était chaud bouillant avec Mathilde Seigné.
J'ai un problème, je sens bien que je t'aime. Oh, j'ai un problème, c'est que je t'aime aussi.
La honte.
On sait recevoir.
Ces mots-là restent toujours les mêmes.
J'attends le refrain avec impatience.
Non, non, non.
Oh, si tu n'es pas vraiment l'amour, tu le sens.
Merci d'accueillir Johnny Hallyday, autrement dit François Berléand. Bonjour François. Dis donc, joli brin de voix.
Mais oui!
Ça, c'est honteux. Ça.
Ah, c'est honteux. Et ce n'est que le début de l'émission. Ouais,
ça,
les coups bas.
C'est une attaque.
C'est pour vous mettre
honteuse.
À l'aise.
Parce que c'est... Non, parce que voilà, ce qui s'est passé, c'est que nous, on nous a dit.
Ne cherchez pas d'excuses.
Non, mais venez pour rendre un hommage à Johnny, etc. Donc, ouais. Je ne savais pas ce qu'on allait chanter, je ne sais rien du tout.
Ça ne s'entend pas du tout.
Et surtout, c'est comme on n'a jamais chanté avec Mathilde, elle va dans une tonalité que je ne connais pas. Je ne connais pas cette tonalité.
Vous avez fait un itinéraire bis, vous.
Et donc, ça a été évidemment absolument impossible.
Ce soir, c'est l'Eurovision. C'est peut-être pas trop tard pour présenter votre candidature
c'est vrai,
pour la France.
Oui,
ah bah voilà,
c'est ce soir.
Vous allez regarder l'Eurovision
ouais.
Non.
Je sais, François, vous regardez pas beaucoup la télé. Pas d'inquiétude, on l'a fait pour vous.
D'accord.
On va tout réécouter, le meilleur, mais surtout le pire. C'est ce qu'on préfère ici.
Oui.
Mais auparavant, il faut juste que vous passiez au guichet du check-in avec Jade.
Ouais.
D'accord.
La fiche de renseignement.
Ça fait peur. Hein.
Aïe.
Mais oui. On va vous poser quelques questions pour mieux vous connaître, François Berléand. Des questions qu'on ne vous a jamais posées, je vous préviens.
Oui, bah,
pour
si
répondre
bêtes, on
du tac au tac. Votre taille.
1,76 maintenant.
D'accord.
1,76, vous grandissez.
Non, j'étais 1,79.
D'accord.
Quand, au Lépigné, au
okay.
rapport service militaire.
Ok.
Et j'ai baissé.
Et le matin, vous êtes baissé. Sur quoi? Du 1,54
non le matin, je suis à.
Avant les étirements.
Avant l'étirement, je suis à 1,65.
1,65, ouais. D'accord.
Voilà, on se rend
parfait.
Mieux compte. Ouais. Alors, on sait qui vous êtes maintenant.
On continue dans la confection.
Votre pointure, parce qu'on a fait fabriquer des chaussures. Votre signe astrologique?
Taureau, ascendant scorpion et dragon.
Dragon. En signe chinois.
En signe chinois.
Non, c'est bien. C'est bonne association. Le matin, c'était ou café?
Café.
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 Tout de suite.
Et expresso, pas café américain, machin,
ah ouais,
truc,
le
bien,
truc qui...
bien fort.
Ouais, voilà. Tu vas réveiller directement.
Un plat que vous détestez?
Le chou.
Et
le
oui,
chou.
Ça on l'avait, stop. On avait le chou-fleur et on avait la pizza.
Oui, alors, non, la c'est chou-fleur. C'est chou-fleur.
Le chou-fleur,
c'est
chou-fleur arrive
c'est
en chou, tête.
Bruxelles, j'aime plutôt pas trop mal.
Ouais.
Le chou-fleur, ça non.
Une d'accord. pizza au chou-fleur, ce serait le cauchemar pour vous. Hein, parce que là, c'est pas votre truc non plus.
C'est pas mon truc. Ah oui, pizza chou-fleur, ça existe?
Ça peut exister. Il y a des gens qui sont maso.
Tout existe.
Et d'ailleurs, en parlant de cuisine, vous dites que vous avez un peu de mal avec les émissions culinaires, tous les concours façon Top Chef à la télé. Parce que vous trouvez ça très frustrant. Dans la mesure où on ne peut ni goûter, ni sentir.
Par contre, je trouve ça très intéressant.
Oui.
Alors, j'ai eu la chance une fois d'être invité à Top Chef. Il fallait goûter des tartes au citron.
Mmh.
Mais au bout de la 12e, on en a un peu marre. Alors,
c'est ça.
Mais ils sont bons. Ils sont vraiment
Ils sont bons, ouais.
Et alors, du coup, c'était bien de participer. Parce que, du
c'était
coup,
sympa, votre rôle de juré, là. Juste pour goûter des tartes au citron.
Tartes au citron.
Une escroquerie totale.
Ah oui, totale.
C'est sympa.
On est bien d'accord.
On reprend néanmoins votre fiche de renseignement.
Alors, un compte Twitter, Facebook, vous êtes...
pas du tout. Alors là, je ne sais même pas ce que c'est.
Vous aviez un compte Twitter, vous dites que vous l'avez supprimé.
Oui.
Car vous ne receviez que des insultes ou des demandes en mariage.
Voilà.
C'est ça. Ah, c'était grand écart.
Et sans des demandes en mariage sans photo.
Ah oui, c'était à la
veille.
Sans photo. Il faut aimer les risques. Oui, il n'y avait pas. Donc j'ai dit non, tant pis. Donc j'ai arrêté. Ça, c'est... Mais c'était 15 jours. Hein, 15
jours. Vous avez tenu 15 jours. C'est déjà pas si mal. Mais c'est vrai que ces réseaux sociaux, ça peut semer la zizanie dans les couples. C'est comme le foot. Je sais que vous adorez ça, François Berléand, le foot, la télé, ça fait partie des choses que vous regardez. Mais alors, j'espère que vous n'aimez pas le foot au point de ce candidat des amours, ce jeu de France 2. Écoutez ce monsieur.
Souvenez-vous, qu'avez-vous fait le soir de la dernière Saint-Valentin?
Ah, bah là, c'est. Pas compliqué, c'était Ligue des Champions, PSG Barcelone, 4-0, impeccable. La Saint-Valentin, on s'en fout.
Y a rien eu d'autre avec le foot?
J'ai accouché pendant un Paris-Marseille.
Ouais.
J'ai perdu les os, contractions, et il m'a fait attendre la deuxième mi-temps pour y aller.
Bah oui.
Non.
On a été à la mi-temps, arrivé là-bas, au lieu de se préoccuper de moi, il a demandé s'ils avaient pas Canal+.
Canal+. Plus.
Voilà, et quand l'enfant est sorti, il a hurlé, but. Vous voyez, c'est quand même une jolie histoire d'amour. Plutôt,
mais ça, c'est bien, moi je trouve ça normal.
Allez, on va reprendre votre fiche de renseignement.
Avez-vous une phobie?
Les oiseaux.
Ah oui, c'est ça. Ah. Tout ce qui est à plumes vous fait flipper.
Donc les pigeons dans Paris.
Ce qui vole.
Zizi Jean-Mère aussi.
Ouais. Bah, la pauvre non plus maintenant, mais non, les pigeons, au moment,
c'est vrai. C'est les oiseaux Stop Hitchcock, hein, je crois, qui vous
absolument.
Ont donné cette petite phobie.
Tout à fait. Et ça, mais c'est terrible. Hein. Et un jour, j'ai une anecdote absolument extraordinaire. J'étais avec une fiancée. J'arrive à Place Saint-Marc, à Venise.
Ah oui, c'est pas le bon endroit.
C'est pas le bon endroit. Ah oui, mais j'avais pas percuté, moi.
C'est vous qui aviez organisé.
Et il pleuvait. Non, c'est elle qui avait organisé.
D'accord.
Il pleuvait. Donc je sors de l'hôtel, on me donne un parapluie. Oui. Et donc j'ai le parapluie, comme ça. On arrive Place Saint-Marc. Et au lieu d'avoir le parapluie à la verticale, j'ai mis comme ça.
En mode char d'assaut.
En mode char d'assaut, ouais. Comme ça. Et
vous en avez embroché combien?
Et elle me disait, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu mets le parapluie comme ça? Ben, je dis, parce que je ne savais pas quoi dire. Parce que.
Il y a des
dis,
trucs.
François, il pleut. Oui, ah oui, pardon, il pleut.
Vous avez fait des brochettes.
J'ai pas arrêté de faire ça.
Vous avez fait des brochettes de pigeons.
Voilà,
en fait,
j'ai fait des brochettes de pigeons.
Pas mal. Alors, vous savez quoi? À cause de cette phobie, malheureusement, vous ne pourrez jamais participer. Ça va être un grand regret pour vous. À une formidable émission de télé-réalité de W9 qui s'appelle Les Marseillais. Pourquoi vous ne pourrez jamais y participer? Parce que parfois, ils envoient, c'est arrivé du moins une fois, les candidats, eh bien, visiter des volières. Enfin, eux, ils ne disent pas exactement volière. Ils disent comme ça.
C'est vrai qu'il y a beaucoup d'oiseaux, là.
Mais non, il n'y a que des oiseaux.
C'est une voilerie. C'est une voilerie.
On arrive, on entend uniquement des oiseaux. Donc, on est peut-être tombé dans une volerie.
Oh, ils font un bouquin. Ils aboient tous en même temps. Ils sont tout chou, ils sont tout mini, ils ont les plumes, elles ont même pas poussé, elles sont même pas plantées.
Voilà, donc elle pense qu'il y a un gars qui est payé pour planter des plumes sur les oiseaux, hein, sans doute il y a une chaîne de production.
Mais ils le font exprès,
pas possible. Non, j'aimerais penser la même chose que vous, Jeanne, mais je n'en suis pas certain.
Alors d'autres drôles d'oiseaux arrivent dans un instant, François Berléand, ce sera le zapping de la semaine.
On refait la télé sur RTL. Jade, Éric Dussard.
Allez, on y va !
Oui, vous êtes bien sur RTL. Désolé pour ce que vous entendez. C'est François Berléand qui nous a demandé à réécouter ce disque. Ouais. Lorsqu'on l'a demandé ce qu'il voulait écouter. Il a dit... J'adore Patrick Sébastien, et particulièrement cette chanson qui est une chanson à texte, faut bien le dire. On a perdu François Berléand. À choisir,
il se
finalement,
cache.
Vous préférez le chou-fleur. On est un peu dans la même thématique, remarquez.
Ou les pigeons.
Vous avez donc une passion pour les chansons de Patrick Sébastien, François Berléand. C'est ce qu'on a découvert en préparant cette émission. C'est bah, il est en prise de tétanie.
Il nous parle.
Quelle est votre favorite? Celle-ci ou peut-être les serviettes? On les a toutes, hein, de toute
oui,
façon.
Oui, mais il y a un florilège. Hein, comment
ah, ouais. Il y a une compile qui existe. Oui, on peut peut-être vous la trouver avant la fin de l'émission.
J'hésitais entre Brassens et Patrick Sébastien.
C'est du texte.
Je me suis dit quand même que Patrick Sébastien, c'est plus intéressant, c'était mieux écrit.
C'est plus joyeux pour le week-end.
Que Patrick Sébastien ne soit pas sur la scène du Louvre pour le grand discours d'Emmanuel Macron, donc dimanche dernier.
Oui.
Hein, ça aurait mis l'ambiance, peut-être.
Oui, peut-être. Hein. C'est vrai que tous ces rappeurs, ça n'avait aucun intérêt. Mais
alors que tout d'un coup, une petite pipe avant d'aller dormir, ça aurait galvanisé la foule. Macron, Emmanuel Macron, notre nouveau président, que vous avez publiquement soutenu, on le rappelle, François Berléand.
Oui.
Plus pour comprendre un petit peu la machine médiatique, puisqu'on a une émission sur la télé, est-ce que derrière, lorsque vous dites ça, votre attaché de presse, votre agent vous dit « Oula, malheureux, il ne fallait surtout pas s'engager parce que c'est devenu trop risqué aujourd'hui ?»
Non, j'y suis allé sans attaché de presse, ni sans agent. Mais on m'a demandé... Voilà, quand on est social-démocrate, la question ne se pose pas de... Même si Hollande l'était profondément, Valls, etc. Mais bon, le PS est devenu trop à gauche, et puis voilà, ça a fait Hamon, et puis ça a fait...
Au-delà de la politique, est-ce que c'est encore possible? On a le sentiment que c'est de plus en plus difficile pour les acteurs et les personnages publics, que ce soit les comédiens, les gens de télévision, les chanteurs, de prendre position sur quelque sujet que ce soit.
Oui, mais moi, je m'en fiche. Enfin, personnellement, on m'a... souvent demandé ce que je pensais, j'ai toujours dit, combien je gagnais quand on me l'a demandé.
Ah, très bien, on n'est pas
très bien.
Cette
alors
question.
Vous gagnez combien?
Ça ne me gêne pas. Voilà,
vous gardez cette liberté, vous y tenez.
Après, je me souviens une fois sur RMC, on m'avait dit, on m'avait demandé combien je gagnais, je l'ai dit. Tout à coup, il y a eu évidemment des tweets en disant ça scandale, etc. Et puis après, j'ai dit, mais quand quelqu'un est connu, c'est sûr qu'il ne va pas gagner un euro par mois.
Ou c'est qu'il a mal négocié.
Ou alors c'est qu'il a mal négocié. Donc c'est
on
tout.
En connaît.
Après, bon, voilà. Moi, je ne gagne jamais la même somme par an, puisque c'est par rapport à... à la somme de travail, si ça marche, si ça marche pas, si quand je suis au théâtre, je suis payé au...
Bien sûr, vos revenus sont fluctuants, ouais.
Voilà, donc soit ça marche et je gagne de l'argent, pas mal, et soit ça marche pas et je gagne pas d'argent, ouais, c'est tout.
Vous avez entendu, là, parce qu'on est beaucoup écouté, vous savez, auprès du Trésor public, donc là, je pense qu'ils ont augmenté le son, ils sont là-bas, en Berlin cette année.
Non, mais tout est... je reste en France, je suis là, j'ai
tout
pas,
est d'équerre.
Pas de soucis.
Cette élection présidentielle, justement, on va en reparler, parce qu'on a concocté, du coup, un petit zapping spécial présidentiel avec les séquences les plus drôles de cette soirée.
Le zapping de la semaine.
Alors, on va commencer, Jade, avec un amateur de poésie hein, sur la troisième marche du podium ce top zapping.
On l'adore, oui. C'est un journaliste vu sur BFM TV qui a voulu comparer Marine Le Pen à une fable de La Fontaine, Perrette et le pot au lait.
Il y a quoi dans le confrontiste? Au minimum un malaise, voire un doute, ce soir?
Oui, en tout cas, si vous voulez, ils étaient un peu comme Perrette et le pot-au-feu. Là, ils étaient un peu comme Perrette et le pot-au-feu. Là, ils se voyaient.
Le pot-au-lait, le pot-au-feu.
Le pot-au-lait.
Elle avait très faim, Perrette, ce jour-là. C'était un pot-au-feu qu'elle s'est mis sur la tête. C'est un peu plus lourd, d'ailleurs.
Prends l'eau sa moelle.
Voilà. Elle s'est dit, je vais grignoter. Dommage, essaye encore. C'était Jean-Michel à peu près. Je
mais c'est Perrette. Il n'a pas dit Perrette, il a dit Berrette.
Ah, bah, il nous a fait ça correctement.
Même, oui, c'est pas la même femme.
Non, c'était Berrette. Oui, Berrette, oui. On la connaît, elle aime le pot-au-feu.
Voilà,
Perrette, c'est le pot-au-lait. Voilà. Alors, numéro 2 de ce top zapping spécial élection, on a un phénomène étrange qui a été constaté par les reporters de BFM TV dimanche.
Tout à fait, Eric. Oui, ils ont vu des choses
comme
bizarres.
Comme les reporters de BFM TV. Oui, exactement.
Exactement. Ils ont vu des choses bizarres dans les bureaux de vote, des électeurs qui ne rentraient pas dans les isoloirs, mais dans les urnes.
Mmh. Alors que je vois les tout premiers électeurs arriver, regardez, ça se passe de ce côté. Ils sont en train de récupérer leur bulletin. Une dame est en train de rentrer dans l'urne.
Eh bien oui, on s'est levé tôt. Il y avait déjà une poignée d'électeurs qui patientaient devant la porte de la mairie avant l'ouverture et vous les voyez, hein, ils sont présents. Voilà monsieur qui sort de l'urne.
Ouais. Bah oui, forcément, il était un peu à l'étroit, le pauvre monsieur là-dedans.
Bah, le pauvre.
C'est déjà bien de pouvoir en sortir.
C'est ça qu'on appelle le bourrage des urnes, en fait, quand les gens se mettent dedans, évidemment. Allez, voici maintenant le numéro 1 de ce zapping spécial présidentiel. C'est un extrait du documentaire, le fameux documentaire que TFA a diffusé dès lundi soir dans les coulisses de la campagne d'Emmanuel Macron. Une caméra l'a filmé pendant 200 jours. Donc, évidemment, beaucoup de séquences cultes, dont celle-ci. Quand Emmanuel Macron regagne sa loge, à la fin du grand débat, vous savez qu'il avait opposé les 11 candidats. Emmanuel Macron est rincé, il veut du chocolat. Mais Brigitte Macron n'est pas d'accord.
Bon, je suis content que ce soit fini. Hein. Alors, verdict, dites-moi. Ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas, faut tout me dire. Hein. Donnez-moi des petits chocolats ou des machins.
Non, mais non, je veux pas que tu manges du saloperie.
Bon, alors d'accord. Non. Je vais prendre, donnez-moi de l'eau. Fillon, il a plus de jus. Hein.
Il a plus de jus.
Mais il a un truc, il a un truc qui est très impressionnant. Parce que moi, j'ai un gros problème. Je sais pas, faut que je travaille ma respiration, tout ça, ou j'ai peut-être mis un coup de fringue. Mais moi, j'avais des fourmis dans les jambes, à rester debout, j'en peux plus. Et lui, putain, je le regardais. Le mec, il bouge jamais, il est comme. On avait tous plein de cul. Hein. Je voyais Fillon, il en pouvait plus. Hein. Il était.
Ça me rassure, on n'est pas les seuls à avoir trouvé ça long, vous voyez. Est-ce qu'il y aura
mais
ce franc parler
C'est qu'ils étaient debout.
Oui. Oui.
Ils sont restés debout pendant 2 ans.
Fillon, lui, aucun problème. Alors que Emmanuel Macron, lui, crise hypoglycémie, vu que Brigitte ne voulait pas lui donner les chocolats.
Non, il sera bien nourri pendant ce quinquennat. Oui. On parlera d'une autre élection présidentielle dans un instant.
Dans 5 ans.
Celle de 1995, on n'est pas loin. Car vous nous avez demandé, François Berléand, à réécouter dans votre replay un extrait du débat Chirac-Jospin. Et ça arrive tout de suite.
On refait la télé sur RTL. Jade, Éric Dussart.
Et nous sommes toujours avec François Berléand pour refaire la télé de la semaine. Mais là, on va refaire la télé d'il y a quelques années, puisque voici vos meilleurs souvenirs télé.
Le replay de l'invité.
Oui, le replay de l'invité, ce sont ses meilleurs.
Il y a quelqu'un est entré dans votre chambre. Eh oui, qu'est-ce que vous voulez?
C'est tout à fait ça. Vous avez d'abord choisi, François Berléand, un extrait du débat de l'entre-deux-tours de la présidentielle de 1995. C'est ce moment très précis où Jacques Chirac évoque la situation en Tchétchénie et parle à Lionel Jospin d'un poème qui vous a visiblement beaucoup marqué.
Sur la Tchétchénie, c'est une très vieille affaire. Je me souviens, quand j'étais jeune, je lisais un poème de Lermontov dans les années 1850 qui s'est transformé en une berceuse que tous les petits Russes ont entendue et qui disait « Mon petit dort, le grand méchant Tchétchène est en train d'aiguiser son couteau, mais ton papa veille. »
pourquoi cet extrait de François Berléand ? Qu'est-ce qui vous amuse à ce point ? C'est le ton très grave de Jacques Chirac,
oui.
Très emprunté. La solennité.
Il y avait une question qui avait été posée.
Oui, on est sur les questions internationales.
Oui, sur les questions internationales. Ouais. Et on dit, qu'est-ce que vous pensez de la crise tchétchène ?
C'est ça.
Et je me souviens, on était 4-5 à écouter le débat. Et tout à coup, lui parle de... Enfin, quoi,
où est-il parti ?
Méfie-toi de l'ogre tchétchène.
Je crois mais qu'il c'est... a botté en touche, oui. C'est assez
et c'était,
élégamment.
C'est, voilà, et c'était extraordinaire parce que ça, c'est, en soi, c'est, on s'est tous regardés, on dit mais pourquoi... Oui.
On a changé l'émission.
On lui pose une question, pourquoi il répond ça ? Enfin, méfie-toi de l'ogre tchétchène. Enfin,
ça avait beaucoup amusé les guignols aussi, hein, qui
les guignols
avaient refait le débat. Ouais.
Avaient fait le débat, donc c'était, on entendait vaguement la voix de Chirac. Et en même temps, sa voix off, qui était évidemment pas sa voix off, mais en disant, mais qu'est-ce que je dis là ? Qu'est-ce que je suis en train de dire ?
Non, mais les guignols, qui étaient très, très, très puissants à l'époque, en 95,
oui.
Vous les regardez encore aujourd'hui ou pas, les
du
guignols ?
Tout. Non, c'est fini. Ouais. C'est fini.
Qu'est-ce qui vous a fait décrocher ?
Le peu que j'ai regardé dernièrement, ça, c'est plus ça. Quoi. C'est plus... Mais en même temps, bon, c'est normal que ça évolue, mais ça évolue pas dans mon sens. Donc voilà, bah, j'ai passé l'âge du coup de...
Je trouve qu'ils ont perdu un petit peu de ce piquant qu'ils
avaient. Ouais, je trouve. Non, mais en plus, voilà, moi, c'était bien PPDA, c'était bien tout ça. Maintenant, c'est différent. Puis ça m'intéresse plus. Voilà, ça me fait plus rire.
Vous êtes pas
comme Charlie Hebdo ne me fait plus rire non plus.
Non
comme,
plus.
Voilà. Après l'événement, j'ai acheté tout de suite le suivant. Et après, je me suis dit, ah bah oui, c'est pour ça que je ne l'ai pas racheté depuis longtemps, c'est que ça ne m'intéressait plus, quoi. C'est un peu l'insulte pour l'insulte, c'est...
Tu trouves que ça va un peu loin ?
La méchanceté pour la méchanceté, ça, ce qu'il a... Alors, encore une fois, peut-être que quand j'étais jeune, ça passait, et que maintenant, encore une fois, je suis peut-être rentré une fois plus dans le mood, et ça ne me passionne plus comme avant. Et voilà, il n'y a pas de bienveillance, il n'y a pas de second degré. Voilà, moi, c'était Harakiri Hebdo. Quand c'est passé à Charlie Hebdo, ça me plaisait beaucoup moins, et puis maintenant, je trouve que c'est... Enfin, ça ne m'intéresse plus. Quoi.
Et alors, Harakiri, justement, on va en reparler dans votre replay, parce qu'on a un extrait avec le patron d'Harakiri.
Voilà. Vous avez voulu réécouter un extrait de l'émission Apostrophe du 22 septembre 1978. Ce soir-là, Bernard Pivot reçoit sur son plateau deux fortes têtes. En effet, le fondateur du magazine Harakiri, François Cavanna, et l'écrivain américain Charles Bukowski.
Ou plutôt Charles qui avait beaucoup bu ce soir-là, puisqu'il est ivre mort. Donc il était très agité en plateau, il parle sans cesse, ce qui a le don d'irriter Cavanna au plus haut point. Et quand on parle de point, le sien a bien failli partir.
Mais je peux faire des dispensaires et être au contact des gens que j'aime et qui viennent m'exposer c'est leurs ça. Problèmes.
Vous avez une action internationale, par exemple, Piouche, vous êtes occupé de...
Bukowski, ta gueule, tu nous en dis.
Voilà.
Moi, je voudrais dire quelque chose de te faire dire. Mais je peux pas. J'attends trop et tu me donnes pas.
Allez, bon.
Alors, bien. Mais Antonin Artaud, j'ai lu ses lettres.
Oh, son pan. Bukowski, shut up.
Bukowski, je vais te foutre mon pan dans la gueule.
Doucement, Cavanna.
Doucement. Ah, c'est pas vrai.
C'était chaud, hein. Et pour finir, vous vous souvenez, Bukowski avait quitté le plateau. Alors,
oui.
Il n'était pas parti en courant,
non.
Il en aurait été bien incapable. Hein. Il ne tenait plus sur ses jambes, le malheureux, vu la cuite qu'il tenait.
Oh, ok. Ciao. Au revoir. Au revoir. Voilà. Vous ne voulez pas l'emmener, là, voilà. Bah, finalement, il ne tient pas tellement la bouteille, c'est l'écrivain américain.
Ah, c'est votre faute, il fallait mettre un fond de vin, il fallait mettre de l'eau dedans.
Mais il a porté ses bouteilles.
Ah, il a porté ses bouteilles.
Il a porté ses bouteilles.
C'était la télévision qui lui offre.
Non, il a porté lui-même ses bouteilles.
C'est pas sur le plateau de la grande librairie qu'on verrait ça aujourd'hui.
Non. Il était venu avec sa bouteille, il était ivre mort.
Ah oui,
il était
oui.
bourré.
Ah oui, quand on voit l'image, il n'y a aucun doute. Il
n'y
a pas besoin de lui faire passer un éthylotest.
C'est ça, c'était des moments extraordinaires. Que la télévision nous offrait ça, quoi. C'est plus possible.
En parlant de la grande librairie qu'on évoquait à l'instant, voilà un livre.
On a
qu'ils ont évoqué d'ailleurs dans la grande librairie. Ah, c'est votre coup de cœur.
Oui. Alexia Stresi, pour son premier roman, Looping, qui raconte une success story incroyable dans l'Italie du XXe siècle.
On peut le dire.
Je crois qu'on peut le dire parce que
c'est ma compagne qui l'a écrit. Donc,
c'est ma
mais j'aurais pu parler d'un film qui va sortir dans peu de temps, je ne le fais pas. Je fais ce livre-là parce que vraiment, pour le coup, je l'ai trouvé absolument extraordinaire. C'est une saga magnifique d'une personne qui a plus ou moins existé. C'est-à-dire que cette femme a existé.
Oui, c'est la question qu'on s'est posée, à savoir si c'était réel ou
mais
pas.
Mais en même temps, il lui est pas arrivé toutes ces aventures.
Augmenté
de quelques anecdotes de quelques différentes.
Épisodes. Voilà. Alexia Stresi, donc, que vous connaissez un petit peu.
Je connais un petit peu, parce que c'est la mère de mes jumelles.
Des jumelles, de surcroît. Oui. Alors, si un joueur décide d'en faire un film, Vous accepteriez de tourner dedans?
Laurent, oui, sera le
demandez-lui
vieux.
Demandez-lui un petit rôle, je ne sais pas.
Le jouerai le vieux salopard, le père. Voilà. Le père qui est un enfoiré.
Les Américains aiment bien que les Français jouent les vieux salopards. Voilà, en plus.
Voilà, je jouerai le salopard. Je jouerai le papa qui est une ordure.
Mais vous voyez comme il est gentil, ce François Berléand. C'est-à-dire qu'il vient non seulement nous voir alors qu'il n'a pas de promotion dans l'immédiat, et il nous parle du livre de Sacha Attente, ça s'applaudit. Voilà un chic. Vraiment. Pour autant, nous, on va se comporter comme des ordures dans un instant, puisqu'on ne se refait pas.
Oui. Et c'est notre boulot, hein, en même
on
temps.
On va passer en revue toutes les rumeurs qui vous concernent.
Ah, voilà, c'est ça, très bien.
Et les craintes.
Et je dis vrai ou faux?
Exact. Oui.
On refait la télé sur RTL. Jade, Éric Dussard.
Vous m'avez dit, quand il fait très chaud, on a des techniques d'acteurs. C'est quoi les techniques?
Technique d'acteur, c'est de se mettre des poches de glaçons au niveau du sexe. Oui. Donc, je tiens ça. Pardon, j'ai fait un film en Pologne au mois d'août. En Pologne, au mois d'août, il fait 50 degrés.
D'accord.
Donc c'était les costumiers, enfin les habilleuses polonaises qui nous mettaient ça.
Et ça marche?
En effet, oui, ça marche vraiment. C'est l'endroit le plus chaud du corps. Et si tu le mets là, tu mets des glaçons, ton corps se refroidit, mais c'est incroyable.
Voilà un truc que l'on doit à notre invité du jour, François Berléand. Invité ce jour-là d'une émission de Frédéric Lopez.
Alors, j'espère que vous n'avez pas trop chaud, là.
Ça va?
Ça va? Ça marche pas avec les bouteilles.
Des glaçons. Je mets des glaçons.
Ouais, des glaçons,
c'est non, mais je l'ai fait deux fois. Je l'ai fait deux fois. Je l'ai fait effectivement pour un film polonais. C'est là où j'ai appris. Ouais. Et après, quand
c'est un film normal où vous étiez pareil.
C'est un film de guerre.
Ah, de guerre.
Moi, j'aimais les films de guerre.
Ouais.
Ça s'appelait Les Mille. Et donc, on était vraiment. Il faisait 50 degrés, vraiment
mais
50 degrés.
Ça ne brûle pas?
Non, mais c'est des poches. Il y a des
petites protections quand même.
Oui, comme des peaux de chamois, on mettait des poches.
Ah, d'accord.
Elles avaient des trucs bien précis.
D'accord.
Ça va y faire.
Voilà. C'est que la polonaise, elle sait y faire. Elle sait y faire. Et la deuxième fois, parce que c'est là où. C'est moi qui ai dit à ce moment-là à la production, mais j'ai dit, mais il faut vous démerder, mais il faut trouver ça. C'était pour les choristes.
Ah oui.
Où pareil, il faisait très très chaud, parce que c'était en 2003, on était à côté de Clermont-Ferrand, et c'est l'endroit le plus chaud de France.
D'accord.
Et donc, moi, pour m'en sortir, j'ai dit, écoutez, voilà...
Vous mais il y a un moment où ça fond, donc ça peut être quand même un peu équivoque, non, à l'image.
Ça fait un sac d'eau.
Quoi. Ça, inutile de vous dire que c'est quand nous sommes assis, qu'on n'a pas...
Oui, oui. Au théâtre, ça ne marcherait pas du tout.
Ah non.
Là, on vous a entendu dans une émission de Frédéric Lopez, j'aimais beaucoup Frédéric Lopez, vous avez participé à plusieurs de ses émissions, mais jamais Rendez-vous en Terre Inconnue. Pourquoi?
Il me l'a proposé, voilà. J'ai dit moi je veux bien, je ne suis jamais allé à Los Angeles, je veux bien aller là-bas,
non, ça marche
en terre
pas.
Inconnue à Los Angeles.
Non,
il y a l'île aux oiseaux à Tahiti.
C'est parfait.
Non mais c'est parce que je ne peux pas moi, c'est impossible.
Qu'est-ce que vous ne pouvez pas?
Mais parce que j'aime pas les oiseaux, j'ai le vertige, j'ai pas que ça. J'ai
mais c'est
vertige,
pas Fort Boyard, c'est un
j'ai
voyage à la rencontre
après,
de peuples éloignés.
Oui, non mais... Après, moi, il faut que j'aille aux toilettes dans des endroits bien précis. Je ne peux pas, il faut qu'il y ait du papier, il faut qu'il y ait des trucs. Je ne peux pas. Moi,
c'est au milieu des autruches pour
oui,
vous, je ne peux
pas.
Bah, allez, on va maintenant vérifier des rumeurs vous concernant, François Berléand.
Allez.
On a raison ou on est un.
Alors, on dit que vous êtes très énervé par les spectateurs qui consultent leur téléphone au théâtre. On a raison.
Ah oui, ça, c'est insupportable.
C'est la lumière que ça déclenche.
Oui, parce qu'il y a une lumière bleue.
Non, mais ça, il faut le dire.
D'abord. On se dit, tiens, au moins on le passionne, lui, ou elle. Ça, ça fait plaisir. Et donc, il y a ça tout le temps. Ah, ça, c'est... Et on voit le visage,
oui,
etc. Et c'est insupportable. Une fois, j'ai eu la chance, ça tombait, mais vraiment à deux secondes près, il y a un téléphone qui sonne.
Ouais.
Et moi, je jouais une pièce de Guitry, et je devais répondre au téléphone, mais peut-être deux secondes après. Et là, donc le téléphone sonne, je fais, ah, oui, allô. Ah bah tiens, c'est bizarre parce que ça continue à sonner. Donc je fais, ah bah alors c'est bizarre.
La personne a dû être très très angoissée. Hein.
Le public était mort de... C'était formidable.
En parlant de téléphone, on a autre chose à votre sujet. On dit que vous avez dans votre téléphone des numéros de politiques très très haut placés et que pour brouiller les pistes, vous mettez les initiales de leurs prédécesseurs. Exemple, NS de Nicolas Sarkozy pour François Hollande. Donc là par exemple, sous FH, François Hollande, vous avez le téléphone d'Emmanuel Macron. On est d'accord.
Non, mais j'ai des trucs. Par contre, j'ai... Oui, non, faut pas que je le dise.
Non, bah, si vous le dites, après, il faudra changer. Ouais, mais ça nous intéresse tout de même.
Parce que je mets des casse-couilles.
Ah, casse-couilles.
Oui, casse-couilles.
Ah, c'est casse-couilles. Bien. Qui a le droit aux casse-couilles?
Ah, bah,
est-ce qu'ils ont une flamberie?
J'en ai un paquet.
Oui, il y en a plein.
Il y en a pas mal, hein.
J'adore.
Mais ce qui m'est arrivé, surtout, c'est un casse-couille qui me dit, est-ce que tu as mon numéro? Et moi, je sais pas. Alors, je regarde.
Vous avez rentré le numéro?
Donc, moi, le numéro. Et là, je fais le numéro et je vois le casse-couille. Et je fais, ah bah oui, je l'ai.
Oh,
La gêne absolue. Voilà. Une autre rumeur.
On dit que vous êtes l'angoisse fait homme, hein, avant chaque représentation au théâtre. Maux de ventre, nausées. On dit même que vous auriez fait croire à une alerte à la bombe pour annuler une représentation.
C'est vous le casse-couille, hein, si je puis me permettre.
Non, mais j'avais peur. Quoi.
C'était quand ça?
C'était jusqu'à il y a 3 ans, je le faisais assez systématiquement.
On a une dernière rumeur.
Oui, on dit enfin que dès que vous avez un petit coup de blues, vous écoutez, on vous comprend, le canular de Jean-Yves Lafesse qui s'appelle Miss France 1938.
On explique quand même, on va écouter, mais on explique d'abord. Ouais. C'est Lafesse qui appelle une vieille dame en se faisant passer pour Miss France 1938. Et là, naît une conversation, mais alors complètement surréaliste.
Germaine Ledoux à l'appareil.
Oui.
Miss France 1938. Vous n'avez pas oublié.
Vous savez, hein.
Oui.
Ah oui.
Oui, je sais.
Vous savez quoi, comment c'est, hein.
Oh oui.
Oui.
Oh, moi, c'est pareil, hein.
Mais vous savez, moi, je ne suis pas... Non, hein, je ne suis pas...
Ah non, bah, j'ai pas dit ça, hein.
Vous savez, hein.
Oh là.
Ah, c'est vrai, hein. C'est tout pareil, hein.
C'est difficile.
Ah oui, ça, c'est vrai.
Oh, je sais pas si vous... Si... Non.
Oh, je ne sais pas, vous savez.
Oui.
Non.
Oui.
Bon. C'est du grand art. Non. On fera pas mieux pour aujourd'hui. On va se laisser là-dessus pour aujourd'hui, François Berléand. Merci d'avoir été avec nous. C'était un vrai plaisir. On vous attend demain.
Oui, rendez-vous demain à 13h30 pour déjà faire la télé de la semaine prochaine.
C'est merci, Jade.
Mais
à demain.
De rien, Eric,
qui
à demain.
Arrive après les infos? Eh bien, la curiosité est un vilain défaut, naturellement, avec Thomas Hugues et Sidonie Bonnec. Bon samedi sur RTL.